Bonjour à tous. Alors, l'image pourrait vous faire croire qu'on repart sur quelque chose qu'a évoqué Olivier en fin juillet au titre des Jeux Olympiques et notamment du sport et des métaphores qu'il y a eu autour du sport, puisque Olivier nous avait présenté ça fin juillet de mémoire. Mais en fait, non. Même si il y aura peut-être quelques petites allusions, et du coup un tout petit peu de doublons et de recoupements avec une vision un peu différente sur certains passages, puisque certains passages parlent à la fois des éléments du combat spirituel, mais aussi de victoire et de nécessité de combattre. Et donc Olivier avait utilisé en partie dans sa présentation. Donc, c'est pas la même chose, mais il peut y avoir un peu de recoupement. Voilà. Je mets quelques réflexions sur les combats spirituels, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs types de combats spirituels dans la parole. Et puis, je prétends pas épuiser ce sujet-là, qui est assez important, énorme, avec pas mal de littérature dessus. Et bien sûr, c'est aussi une réflexion que j'ai en ce moment et puis qu'on a un peu avec Flo dans la perspective d'un voyage qu'on fait dans 15 jours. Donc voilà, on va prendre quelques éléments là-dessus. Alors, je vais d'abord évoquer, donc j'ai dit qu'il y a plusieurs types et je vais juste me concentrer sur deux types de combats que j'ai appelés externes, le combat spirituel externe, par opposition à un combat spirituel interne ou intérieur. Et pour ça, je vais bien sûr appeler quelques passages de la parole, et notamment celui dans lequel on trouve quelque chose d'important sur le combat externe, qui est Éphésiens 6, verset 12, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Et quand on dit ça, je vais un peu vite, quand on dit ça, quand on lit ce passage-là, on voit que, en fait, ce que ça dit, c'est que ce n'est pas contre des choses que l'on voit. C'est contre des puissances spirituelles qui ne sont pas forcément très habituelles dans notre civilisation occidentale. Qu'est-ce que c'est que ces principautés, autorités, dominateurs des ténèbres, la puissance de spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes, qui serait notre lutte principale? Alors, je vais juste effleurer et lever un tout petit peu le voile sur quelques éléments là-dessus, de ce que je perçois, de ce que nous en dit la parole, et notamment quelques remarques au sujet des anges et des démons. Et une remarque prioritaire, et je l'avais déjà effleuré un peu ici une fois, c'est que les anges et les démons sont inscrits dans le temps et dans l'espace. Êtres créés qui interviennent à la fois dans le temps, c'est-à-dire qu'ils sont soumis au déroulé du temps, et ils sont soumis aussi à la spatialisation des événements. Et pour ça, j'en veux plusieurs preuves dans la parole, qui est la première, c'est Daniel. Daniel 10, verset 12. Daniel, dès le premier, quand l'ange vient le voir, il dit: Daniel, dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et moi, je suis venu à cause de tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici, Michaël, un des premiers chefs, vint à mon secours, et je restai là auprès des rois de Perse. On a les deux éléments dans ce passage. Un, il y a eu un retard de près de 3 semaines, donc entre le temps où Daniel appelle au secours, on va le dire comme ça, et puis où un ange vient l'aider, vient le voir. Et du coup, les 21 jours qui sont passés, les 3 semaines, ne sont pas un rien. Pour l'ange qui vient le voir, il y a bien 21 jours, il y a bien 3 semaines qui s'est passé. Donc il y a bien ce délai qu'il y a eu, et il est conscient qu'il est en retard, en gros, hein. Il est conscient qu'il a un retard. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il a été retenu ailleurs. Donc, spatialement, il était dans une zone où il ne pouvait pas aller voir Daniel. Il était à la fois dans le temps, il a dû combattre, il a résisté, il a combattu avec le roi des Perses pendant 21 jours, pendant 3 semaines, et il était ailleurs. Et donc on a des éléments là qui font que cet ange qui vient voir Daniel a été à la fois retenu et à la fois avait nécessité de temps, comme nous on le connaît, avec d'ailleurs les mêmes temporalités. Je dirais, on n'est pas dans, dans la temporalité de Dieu, qui a une temporalité complètement différente de la nôtre, hein, les psaumes nous disent, un jour comme 1000 ans, et donc on n'est pas dans cette différenciation de temporalité. Et donc, les puissances spirituelles, là on est sur un ange, mais on a aussi des choses sur les puissances spirituelles de méchanceté. Un petit passage assez court donc, que j'avais déjà évoqué en Matthieu 4, verset 11, juste à la fin des tentations du Seigneur Jésus. On voit que les anges s'approchent, une fois que le diable est parti, les anges s'approchent du Seigneur et le servent. Et ça nous parle de la spatialisation. Les anges, ils n'étaient pas avec le Seigneur comme pendant la tentation, ou ils étaient loin, certainement qu'ils regardaient, et je pense que dans un moment si incompréhensible et si fort, certainement beaucoup des puissances spirituelles, à la fois de méchanceté et des anges, regardaient ce qui se passait et regardaient comment le Seigneur faisait, mais ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas juste à côté. Et ils ont besoin de s'approcher pour servir le Seigneur. Ils ont besoin de venir près du Seigneur pour le servir. Là, ça nous parle de la spatialisation. Un autre point, ça c'est ce que fait le Seigneur Jésus, si vous avez remarqué. Alors, je prends un exemple et je passe sous silence le fond du passage. Je prends juste des périphéries du passage pour montrer ces éléments-là. En Matthieu 8, on voit le Seigneur qui part de là où il est, il traverse la mer et il va s'occuper spécialement de deux démoniaques. Alors, un démoniaque ou deux démoniaques, hein, qui a légion, bon, en fonction des évangiles, ça change un tout petit peu. Et donc, on a le Seigneur qui va à cet endroit-là, qui va s'en occuper, chasse les démons et revient là où il était avant. Et manifestement, il n'est allé que pour ça. Parce qu'en plus, il se fait jeter de l'autre côté, donc il se fait repousser, mais il n'y va que pour ça. Et ça nous montre aussi que le Seigneur sait aussi que ces puissances de méchanceté sont spatialisées, elles sont à un endroit, elles ne sont pas partout à la fois. Ça n'est pas des êtres qui sont omniprésents dans l'espace, comme on peut avoir avec l'esprit ou avec Dieu. Ce sont vraiment des êtres créés qui sont spatialisés. Et donc le Seigneur a besoin d'aller les voir. Il va les voir sur leur terre, et il va donner une parole d'autorité, et il revient à son travail, hein, là, il a enseigné, il retraverse l'autre rive à la fin du passage, il passa à l'autre rive, donc il revient. J'aurais une autre remarque, et j'ai pas pris de slide là-dessus. Les anges dont on parle, et en particulier les anges, on les voit prendre des formes humaines dans la parole à plusieurs moments. Hein, on voit qu'ils se présentent avec des formes humaines. Et il semble que... puis on a pas mal de chrétiens qui racontent avoir vu des anges, mais souvent sur des formes humaines, des gens qui apparaissent comme ça, viennent de nulle part, et puis disparaissent, dont on n'entend plus parler. Alors, il y a plusieurs exemples dans la parole. Et puis la parole nous dit que certains ont logé des anges à leur insu. Donc on a aussi une capacité des anges à prendre une forme humaine, temporaire probablement, mais ça on n'a aucun élément dans la parole pour savoir ce qui est autour, avant et après, ou comment ça se produit, comment les anges prennent cette forme humaine. On a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, évidemment, et on a cette remarque dans le Nouveau Testament que certains ont logé des anges à leur insu, hein, en exerçant l'hospitalité. Pourquoi je dis ça? Je vous ai dit qu'un peu ça rejoint donc ce que j'ai un peu à cœur en ce moment, en relation avec un voyage qu'on va faire avec Flo. Cette image, c'est hyper banal. Vous savez ce que c'est? Vous savez pas ce que c'est, ça peut pas... Ça dit rien. Ça dit rien. C'est deux personnes qui sont en prière ensemble. Je trouve que la personne de gauche, c'est moi. Qui sont en prière ensemble. C'est quelque chose d'extrêmement banal. Deux personnes qui, dans un endroit, prient. Et cet endroit, il est où? Il est dans les jardins de cet endroit-là. Qui est assez banal, sauf que c'est quand même l'une des photos les plus connues du Maroc, avec la Koutoubia, donc une grande mosquée du Maroc. En soi, c'est un endroit hyper touristique. Il y a plein de monde. Il y a Un bâtiment qui est sympa, qui a pris cher avec le séisme, mais qui a été encore bien en état. Et autour, il y a des magnifiques jardins. Mais les deux réunis, c'est un combat spirituel. Si la photo de gauche, et c'est le cas, est juste à côté de cet endroit-là, ça devient un combat spirituel. Parce que on a un endroit où se trouvent des puissances spirituelles de méchanceté. Et du coup, d'aller prier à cet endroit-là, c'est pas anodin. Autrement dit, on a une action très, qui pour nous, chrétiens, nous paraît facile, banale, aisée, de prier. On a un endroit où le vulgus pecum, quand il y passe, il voit un bâtiment, c'est génial, c'est sympa, c'est une belle histoire. La végétation est luxuriante, bien entretenue. Les deux sont banals, mais les deux ensemble, c'est un combat spirituel qui se passe. Et il se passe quelque chose dans les lieux célestes, dans ce combat. Je voudrais continuer sur ce thème-là avec ce passage de Luc que j'ai un peu éclairci dans ce que vous avez à l'écran, mais je vais le lire comme ça pour éclaircir le. Qui est le passage où le Seigneur envoie les disciples pour préparer et pour parler de la venue du royaume de Dieu. Luc 10, le Seigneur les envoya deux à deux devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller. Allez, voici, moi je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et les 70 s'en revinrent avec joie, et Jésus leur dit, je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dessus. Donc ce passage, il est bien connu et il me parle beaucoup dans le cadre de ce que je viens d'évoquer comme type d'action, d'aller prier sur place dans des pays qui sont fermés à l'évangile, pour plusieurs choses. La première, c'est qu'on va avoir quelques points saillants et je vais en regarder 4-5 là. Le premier, c'est l'importance du collectif. Le Seigneur, il envoie les disciples deux à deux. Il les envoie pas seuls. Et on a une puissance particulière, et la parole nous le dit, quand deux ou trois sont d'accord pour une même chose. Alors, c'est pas anodin ça. Ça veut dire que se sentir être seul. Ce n'est pas la vision du Seigneur d'envoyer au charbon seul, mais c'est sa vision, c'est que nous y allions à plusieurs. Là, deux à deux, et je vous ai montré une photo où on est deux, et effectivement, c'est ce qu'on pratique, c'est-à-dire quand on va prier dans des endroits comme ça, on est minimum deux, on est deux à prier ensemble. Et c'est important parce qu'on n'est pas solide tout seul. Et quand on dit deux à deux, c'est aussi que la communauté va venir autour des deux. Et on a un collectif qui est important. Autre point, c'est assez extraordinaire dans ce passage, je ne l'avais pas remarqué il y a quelques années, mais le Seigneur, il envoie là où il devait aller. Ça veut dire qu'en fait, on est quelque part juste des messagers annonciateurs, des petits Jean-Baptiste. Juste de préparer le chemin du Seigneur là où il va aller. Ce qui veut dire que, je ne sais pas si vous avez suivi aussi le livre d'Éric de Nimal sur dire Dieu, là on en avait parlé un temps ici, et il dit, ne soyons pas le chaînon manquant, et on est juste un maillon dans une chaîne de l'évangile, de la bonne nouvelle. Et le Seigneur, il envoie les disciples deux à deux pour être ce premier maillon. Juste. Il lui demande pas de faire tout le travail, même s'il y a il incite à la guérison et il donne la puissance, mais déjà il envoie parce qu'il devait y aller. Donc c'est un endroit où il va aller derrière. Est-ce qu'il y est allé physiquement partout où les disciples sont passés? La parole ne précise pas ça, parce qu'ils étaient quand même 70, deux groupes de 35, 35 groupes de 2, pardon, et donc ils sont allés probablement à pas mal d'endroits. Est-ce que physiquement, étant sur terre, il est allé? Mais en tout cas, il dit qu'il va y aller. Et ça, c'est l'assurance qu'on peut avoir aussi quand pas uniquement quand on part dans des pays un peu particuliers, mais aussi dans notre pays, quand on est dans notre travail séculaire aussi, là où on est déjà le messager annonciateur de là où le Seigneur va venir. Et il faut avoir cette conviction que si on est chrétien et qu'on prie à un endroit, y compris dans notre boulot, dans là où on est, alors on commence le combat spirituel. Ce ne sera pas nous qui allons le finir, parce que le Seigneur lui-même dit qu'il va y aller. Il va y aller et on commence juste le travail. Mais c'est notre responsabilité, hein, comme on dit avec des animaux, c'est de ne pas être défaillant sur juste notre petit bout de travail qu'on a à faire. Autre remarque, le Seigneur leur dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous connaissez ça, un chef militaire qui dit, allez-y, vous allez faire bouffer. C'est vachement encourageant comme envoi quand même, hein. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Allez-y, vous allez faire croquer tout cru. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que ce n'est pas nous qui avons la force. Et le Seigneur, il envoie en disant, oui, vous êtes des agneaux au milieu des loups. Il y a d'autres aspects sur cette expression-là, hein. Il y a d'autres choses en termes de... Parce que c'est développé sur apporter la paix, notamment dans les maisons, et être annonciateur de paix. Donc dans ce passage, c'est aussi ça que ça vise, les agneaux au milieu des loups. Mais le Seigneur, il nous dit, attention, vous êtes faibles, je ne vous ai pas équipés forcément pour être les plus forts. C'est assez étonnant parce qu'après on va voir qu'il dit autre chose. Mais vous êtes d'abord des agneaux. Et ayez ça en tête. Autre point un peu saillant, le Seigneur il dit quand ils reviennent, il dit je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Est-ce que les disciples qui l'ont vu, ils se réjouissaient en revenant parce qu'ils ont vu plein de choses. Ils ont vu des guérisons, ils ont vu des choses qui se sont passées. Mais est-ce qu'ils ont tout vu? Probablement pas. Et ça, ils ne l'ont peut-être pas vu. Mais ça, Jésus, le Seigneur Jésus, voyait Satan tombant. Lui, il le voyait. Et dans ce qu'on fait, quand on va prier loin, quand juste on témoigne dans notre milieu professionnel, on ne voit pas forcément Satan tomber comme des éclairs. On ne s'en rend pas compte. On a un peu l'impression de prêcher dans le désert, selon l'expression. Et pourtant, le Seigneur nous dit que c'est un combat qui a fait tomber Satan. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas, mais le Seigneur, il le voit. Il y a des barrières qui tombent, quand on est dans en particulier quand on est dans un milieu hostile, mais même quand on n'est pas dans un milieu qu'on considère hostile. Parce que ça, c'est un peu, je reviens un peu tout petit peu en arrière, mais c'est un peu un travers de nos sociétés occidentales, de ne pas voir l'hostilité des puissances de méchanceté autour de nous. Dans les zones en Afrique en particulier, on a une vraie prégnance et une vraie prise de conscience de la présence des puissances spirituelles de méchanceté autour des chrétiens en particulier. On l'a beaucoup moins dans nos sociétés occidentales, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'y est pas. Elle y est. Et elle est réelle, et elle prend d'autres formes que celles qu'on a dans d'autres pays, mais elle existe. Et dernier point sur ce passage, notre récompense, elle n'est pas que on a réussi l'évangélisation, elle n'est pas que on a, à la limite, réjoui et apporté la paix, parce que c'est ce que les disciples ont fait. Notre récompense, c'est que nos noms sont écrits dans les cieux. Et ça ne dépend pas de ce qui est fait ou de ce qui est réalisé ou du résultat. Le Seigneur, il dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Déjà, aujourd'hui, nos noms sont écrits dans les cieux. On a déjà notre récompense. Ce qui est important, c'est ça, et c'est le motif de réjouissance premier que nous avons à avoir. Alors, Dieu nous propose un équipement. Passage très connu que je ne vais pas... épuisé de loin, je veux juste l'évoquer parce que c'est quand même important. Dieu nous équipe pour ce combat spirituel. Et dans les équipements que l'on a, on a plusieurs points. On a bien sûr relevé sept points en particulier, hein, qui sont bien sûr la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi que je mets au milieu. Hein. Comme par hasard, c'est celui qui vient au milieu des sept. Le salut, la parole de Dieu et les prières pour tous les saints. Chaque fois que on peut les prendre un par un, et il y a beaucoup de commentaires sur ce passage-là, et je ne vais pas faire les liens entre le fait de se ceindre, le fait de revêtir, de se préparer. Ce n'est pas l'objet de ce que je veux dire là, à ce moment-là. Mais il y a quelques points quand même sur lesquels il faut qu'on soit attention, hein, qu'on fasse attention. Un, la vérité. Nous avons à parler en vérité, de dire la vérité, de dire les choses qui sont vraies et qui sont vraies selon ce que nous comprenons de la parole de Dieu. Et je parle aussi sur un des autres points. La vérité vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est cette puissance qui va défaire nos doutes et nos remises en cause, nos remises en question. Quand le Seigneur est tenté, il ne répond qu'avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est utilisée pour répondre. La justice, c'est l'évangile de paix. La justice, je trouve que dans ce passage, c'est assez compliqué. Parce que oui, ça fait référence à la justice de Dieu, évidemment. Mais comment on traduit ça vraiment dans notre combat spirituel d'être juste, d'appeler la justice de Dieu? Et j'ai une compréhension un peu adaptée aussi avec ce qu'on fait en ce moment avec Flo. Il n'est pas très juste de présenter la parole de Dieu et l'évangile de paix, justement, uniquement avec notre prisme occidental. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Les musulmans, vraiment musulmans, qui se convertissent et qui rencontrent souvent Jésus de façon assez extraordinaire, ils trouvent aussi Jésus dans le Coran. Juste un point, le Coran cite 97 fois Issa. Il cite 5 fois Mahomet. Et Issa, donc Jésus. Et du coup, il y a des personnes qui trouvent Jésus par le Coran. Et ce qu'ils refusent de tout leur port, c'est d'être appelés chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens, c'est nous. C'est le monde occidental. Les chrétiens, c'est nous. C'est le monde occidental. Et le monde occidental, pour les musulmans, ça ne fait pas très envie. C'est plein de perversions, de choses qu'ils n'acceptent pas. Et donc, être appelé chrétien, ça ne leur va pas du tout. Parce qu'ils ne veulent pas ça. Et ils se disent musulmans, disciples de Jésus. Extraordinaire. Et du coup, quand je parle de justice, je suis un peu loin de la compréhension habituelle de ce passage, hein, mais quand je parle de justice, est-ce qu'il est absolument juste d'imposer ma façon de vivre l'évangile, surtout si je veux un évangile de paix? Est-ce que c'est ma seule façon de le vivre? Ou est-ce que je peux accepter que certains vont vivre l'évangile de paix, c'est-à-dire en étant en paix avec Dieu et paisible avec leur entourage, en restant musulmans, disciples de Jésus? Oui, je peux accepter ça. Il va falloir. C'est compliqué, hein, pour nous d'accepter ça. Mais c'est possible. Et bien sûr, on a cette chose centrale qui est la foi. Et dans ce passage-là, c'est vraiment pour moi vraiment central. Et la foi, pardon. La foi, j'y reviendrai un tout petit peu à la fin de la présentation. Le salut, évidemment, c'est ce que l'on prêche. C'est vers ça qu'on ping, hein, qu'on a le focus. Et c'est les outils, c'est la parole de Dieu. Et la prière pour tous les saints. La prière pour tous les saints, vous avez vu, hein, ça veut dire qu'on doit tous être dans ce collectif qui va au combat pour préparer le Seigneur Jésus dans les cœurs de tous. C'est énorme. C'est énorme. Parce que la prière pour tous les saints, ça veut dire qu'on embrasse dans nos prières l'ensemble des enfants de Dieu de par le monde. C'est énorme. C'est grand, c'est large, mais c'est à ça que nous sommes appelés et qui est un équipement que propose Dieu pour le combat spirituel. Je ne sais pas si ça marche. Pour ceux qui n'ont pas entendu en boucle déjà depuis l'été. l'hymne des vainqueurs des JO. Mais la victoire est assurée. Et ce passage, je prends ce passage de Romains. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ ? Tribulation, détresse, persécution, famine, nudité, péril ou épée ? Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Qui est-ce qui dit qu'il vit ça pleinement ? Qui est capable de dire « Je suis sûr de ça ». Pas de tribulation, pas de détresse, pas de persécution, pas de famine. Aucun péril, aucune épée ne séparera de l'amour de Jésus. C'est difficile à dire ça, hein, et à réaliser pour soi. On a cette conviction, on a une victoire assurée, mais ce n'est pas facile à vivre. De réaliser qu'on a cette victoire, c'est pas si simple que ça. La parole nous dit que nous sommes vainqueurs, mais on a du mal à le réaliser. Est-ce qu'on est vainqueur de nos tentations, vainqueur de la tribulation, vainqueur des détresses ? Vainqueur des persécutions pour ceux qui n'ont pas l'impression de gagner. Pour ceux qui ont plutôt l'impression de perdre. Mais la parole nous dit ça. Ni chose d'avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur ne nous séparera de l'amour de Dieu. Cette victoire, on l'a dans quoi ? C'est pour ça qu'on a du mal. Cette victoire, ça n'est pas la grande réussite faciale dans le monde. Ça n'est pas d'avoir très bien réussi dans son boulot. Ça n'est pas d'avoir évangélisé plein de gens qui ont grossi les églises. Cette victoire que nous avons, là, en quoi nous sommes vainqueurs ? Nous sommes vainqueurs parce que nous sommes aimés de Dieu. Parce que nous avons l'amour de Dieu. C'est la victoire que nous avons. Parce que cet amour de Dieu, il est inébranlable. Ça n'est pas nos réussites. Ça n'est pas que tout va bien dans nos vies. Mais c'est que nous avons, quoi qu'il arrive, l'amour de Dieu pour nous. Et en nous. Je vais avancer. Juste un peu plus rapidement sur la deuxième partie que je voulais évoquer, qui est le combat spirituel intérieur ou interne. Qui donc a plus à voir avec nous qu'avec notamment les puissances spirituelles de méchanceté. En 1 Timothée 6, 12, hein, l'apôtre, et ça a été évoqué, c'est des passages qui ont été évoqués par Olivier. Mais toi, ô homme de Dieu, poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. L'apôtre Paul écrit à Timothée en l'engageant à saisir ça. Et ça fait suite à quoi ça ? Parce que si on va, on lit souvent que ça, mais ce qui est bien, c'est de voir dans quel contexte ça s'inscrit. Juste au-dessus, juste avant plutôt, si quelqu'un enseigne autrement, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes, d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. Or la piété, avec le contentement, est un grand gain. Autrement dit, il dit quoi là ? En fait, l'apôtre Paul, il incite Timothée à poursuivre la justice, à combattre le bon combat de la foi, en contraste avec l'orgueil, avec les disputes, avec les supputations, hein, les mauvais soupçons, avec les mots injurieux et l'âpreté au gain. L'envie d'argent, l'envie de biens matériels. C'est de ça qu'il incite à combattre, ce combat. Et ce combat, il est, oui, il est social, mais il est aussi pour chacun de nous. C'est un combat à mener, nous. De ne pas être querelleur, de ne pas être enflé d'orgueil, de ne pas supputer le mal, de ne pas être approuvant. De travailler cette source de contentement, qui est un grand gain avec la piété. De travailler ça, ça c'est un combat qu'on a à suivre intérieur. Et ce combat, c'est le combat de la foi. C'est le combat de saisir qu'aujourd'hui nous avons des choses que nous n'avons pas, que nous ne voyons pas encore et qui sont la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons la vie éternelle, de saisir la vie éternelle. Et ce qui est très beau, c'est que l'apôtre, il s'estime vainqueur. Dans 2 Timothée, probablement écrit quelques années après, 3 ans peut-être après, en 2 Timothée, l'apôtre, à la fin de l'épître, l'apôtre Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il a mené ce combat de la foi, c'est pour garder la foi. J'ai gardé ça. Et il entrevoit la récompense. Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là. Et Olivier avait insisté sur, non seulement à lui, mais aussi à tous ceux qui croient en son nom, la suite du passage. Mais l'apôtre Paul, il dit, j'ai gardé la foi. Et j'ai la couronne pour moi. Je suis vainqueur. La couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera. Puisse-t-elle être en chacun de nous. La foi, dans ces passages, et dans nos combats intérieurs, ou nos combats internes, c'est-à-dire quand, tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais c'est à la fois un combat intérieur, mais c'est un combat aussi d'église, et dans nos communautés. Ce que décrit l'apôtre Paul en 1 Timothée, c'est pas des gens du monde, hein. C'est des choses qui se passent dans les églises, c'est des choses qu'il a avec ses frères et sœurs, Timothée, c'est des combats qu'il a avec ses frères et sœurs. C'est donc dans nos milieux, dans nos églises, dans nos communautés, on a mené ce combat de la foi premièrement. Et je dis la foi, avec ce mauvais jeu de mots, est à la fois objectif de vie et moyen de vie avec Dieu. C'est vraiment un point central dans nos combats et dans notre vie. Et je finirai avec juste cette traduction du verset de Hébreux 11, verset 1 que j'aime bien. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère et un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas. Et cette traduction, elle nous dit, oui, j'ai déjà ce que j'espère. En fait, mon espérance de vie éternelle, je l'ai déjà. Ma récompense de l'amour de Dieu infaillible, je l'ai déjà. Et on peut le connaître aussi. On peut non seulement le posséder, savoir qu'on possède, mais on connaît ce qu'on possède. On peut l'expérimenter, le connaître et le mettre en exercice dans nos vies. Merci.